Il arrive de temps en temps que dans l'évangile, on voit Jésus se retirer sur la montagne pour prier son Père dans le secret, pour entrer dans ce cœur à cœur avec son Père. On nous le dit, Jésus monta sur la montagne pour prier. Mais peu de fois dans l'évangile, on nous fait entrer dans la prière de Jésus. Bien sûr, nous connaissons la prière de Jésus, la prière de notre Père, lorsque ses disciples lui demandent « Apprends-nous à prier ?» Il leur dit « Dites, Père !» Nous connaissons peut-être aussi cette belle prière de Jésus qui est un peu comme une exultation lorsque Jésus, sous l'action de l'Esprit-Saint, nous dit l'Évangile, s'écria « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te bénis ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Et puis il y a ici cette page d'Évangile que nous venons de lire et qui se prolonge encore, c'est tout le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, qui est comme la prière de Jésus. Pas seulement la prière d'un moment, on pourrait dire. C'est la prière continuelle de Jésus. L'évangéliste Jean, celui qui a posé sa tête sur la poitrine du Seigneur, qui connaît son cœur, nous fait partager la prière de Jésus. Une prière qu'on appelle parfois prière sacerdotale. Car c'est Jésus, au moment où il va entrer dans sa passion, mais qui est comme déjà ressuscité. On le voit comme étant déjà présent à son Père pleinement. Jésus qui intercède, comme les prêtres de l'Ancienne Alliance intercédaient pour le peuple, et Jésus qui va se donner, comme les prêtres offraient aussi un sacrifice pour l'Alliance. Nous sommes là à la dernière scène, mais la prière de Jésus que nous venons d'entendre dans l'Évangile a déjà comme un goût d'éternité. Jésus est en même temps là, bien dans ce monde, et nous savons qu'il va souffrir et s'enraciner dans le plus profond de notre humanité, en mourant de notre mort et même d'une mort atroce. Et en même temps, nous percevons dans cette prière qu'il est déjà complètement dans le Père. Et c'est peut-être la raison, cette double appartenance du monde et de l'éternité, c'est la raison pour laquelle peut-être nous le lisons en ce temps, juste après l'ascension. Comme je le disais, cette prière de Jésus, ce n'est pas juste la prière d'un moment, celle qu'il a prononcée à ce moment-là, mais c'est la prière qu'il vit encore aujourd'hui pour nous. C'est ce dialogue permanent avec son Père dans la joie de l'Esprit-Saint. Alors, quelle est-elle, cette prière de Jésus? Elle est d'abord une prière de reconnaissance. Il dit « Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Jésus reconnaît ce qui s'est accompli par lui. Mais ce n'est pas une reconnaissance fanfaronne, un peu comme on dirait « Regarde comme je fais bien, regarde comme j'ai bien accompli ton œuvre. » C'est une reconnaissance au deuxième sens de la reconnaissance. C'est une reconnaissance action de grâce. Jésus reconnaît que tout ce qu'il a accompli, que tout ce qui a été accompli, c'est le Père qui lui a donné. Si nous sommes attentifs, il n'y a pas de « je » sans « tu ». J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Tout ce que tu m'as donné vient de toi et je leur ai donné tes paroles. Pas de « je » sans « tu ». C'est une belle manière pour nous d'apprendre à reconnaître, nous aussi, dans notre prière. Être reconnaissant dans notre prière, ce n'est pas simplement venir dire au Seigneur « Regarde ce que j'ai fait de bien », c'est rendre grâce au Seigneur pour ce qui se fait de bien, pour l'œuvre commune qui est la nôtre. Pas de « je » sans « tu ». Et puis, la reconnaissance de Jésus, elle n'est pas simplement pour lui-même, mais c'est une reconnaissance pour nous. Il rend grâce à son Père pour nous. Ce que tu m'as donné, comme dit Jésus, ce que j'ai reçu de toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, dit Jésus, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Jésus se réjouit de ses disciples. Bien sûr, nous sommes invités à nous réjouir nous-mêmes de la gloire de Jésus, mais c'est important de prendre compte, de prendre conscience que Jésus se réjouit de nous. Lorsque nous faisons cet acte de foi, lorsque nous accordons notre confiance au Seigneur, lorsque nous recevons les paroles du Seigneur, eh bien, nous faisons sa joie. Prière de reconnaissance, mais aussi une prière de demande. Je prie pour eux. C'est bon pour nous d'entendre que le Seigneur prie pour nous. Nous prions, Seigneur, mais lui prie pour nous. Il prie pour nous pour que nous ayons la vie éternelle. C'est ce que dit Jésus. Ainsi comme tu as donné au Fils pouvoir sur tout être de chair, lui donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Il prie pour que nous ayons la vie éternelle. Et non pas la vie éternelle simplement après notre mort, comme bien souvent nous nous limitons à la comprendre. Mais il le dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est rentrer dans cette relation d'amour de Jésus à son Père. Cette relation de fils et de père. C'est rentrer vraiment dans l'intimité de la Sainte Trinité. Vivre comme des fils, comme des filles, en confiance. C'est cela la vie éternelle. C'est nous enraciner dans l'amour de Dieu, un amour qui nous permet de traverser toute situation. Et c'est pour ça que la vie éternelle, nous pouvons déjà la toucher aujourd'hui. Connaître le Dieu vivant, connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, c'est quelque chose qui nous est accessible aujourd'hui. Et que nous pouvons vivre et qui nous donne de pouvoir traverser toute situation, comme cette situation de souffrance ou de persécution dont parle la première lettre de Saint Pierre apôtre, où nous retrouvons comme une sorte de tonalité des béatitudes. Il dit, Saint Pierre apôtre, « Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. » Réjouissez-vous. Réjouissez-vous même dans les situations de peine, même dans les situations de souffrance. Il y a quelque chose, lorsque nous vivons de cette confiance en Dieu, quand nous nous ouvrons à la vie de Dieu, même au milieu des situations qui nous déchirent, il y a quelque chose que nous touchons de la vie éternelle. Cette vie éternelle, elle se vit aussi, non pas tout seul, mais dans la communauté, dans la communion. Et c'est l'image que nous en donne le livre des Actes des Apôtres. Lorsque, après avoir pris congé, on pourrait dire, de Jésus au Mont des Oliviers, les disciples reviennent au Cénacle. Et là, ils vont s'unir d'un même cœur, dit les Actes des Apôtres, d'un même cœur dans la prière, avec Marie. Cette union, cette dimension de la communauté que nous pouvons vivre, et peut-être en particulier dans des moments d'interrogation, comme celui que traversent sans doute les apôtres à ce moment-là. Jésus leur a bien promis l'Esprit Saint, mais ils sont peut-être en train de se demander qu'est-ce qui va se passer. Eh bien, le fait de pouvoir compter sur la communauté, de pouvoir nous unir dans la prière, c'est une manière de goûter déjà quelque chose à la vie éternelle. Alors demandons, dans cette Eucharistie, de pouvoir connaître la vie éternelle, de pouvoir déjà goûter la vie éternelle maintenant. N'ayons pas peur de demander cela au Seigneur, et de pouvoir le demander, non pas simplement dans des choses qui nous semblent très éloignées de nous, mais même dans ces petits enfants qui courent et qui nous réjouissent le cœur, même dans le fait de pouvoir nous retrouver en communauté, dans le fait de partager la prière et de partager notre vie. Laissons aussi, demandons au Seigneur de pouvoir reconnaître, de pouvoir le connaître lui, de pouvoir le reconnaître à l'œuvre agissant dans notre vie. C'est ce que nous demanderons, en attendant l'Esprit que le Seigneur veut nous donner en abondance.